Vous écoutez, on lit pour vous.
Reine d'une télé-réalité décarbonée. Un texte de Valérie Simard, paru le 16 janvier 2026 dans La Presse. Ils étaient six à s'affronter dans cette télé-réalité hors du commun. Pas de voyage au Chili et d'ostentatoire demeure ici. C'est plutôt l'éco-responsabilité qui était au cœur des décarbonés, une compétition télévisée récemment remportée par Melanie McCulloch. Dans les 10 épisodes de l'émission diffusée sur les ondes d'UniTV à l'automne 2025, on la voit réparer une sacoche avec des attaches autobloquantes, tie wraps, pédaler pour recharger des appareils, trier des déchets et craquer devant une machine à coudre dans une épreuve qui aurait pu lui coûter la victoire. On ne le voit pas, mais à un moment donné, je vais dans la salle d'essayage et je pleure, raconte l'agricultrice de Farnham, rencontrée sur sa terre quelques semaines après la diffusion de la finale. Dans cet épisode, les participants disposaient de peu de temps pour confectionner une tenue de gala extravagante à partir de vêtements dénichés au centre de liquidation de Renaissance. Nul en couture, c'est Mathieu, son conjoint, qui coud mes boutons. Mélanie craignait alors davantage de se ridiculiser que de voir la victoire lui échapper. Même si elle a terminé au cinquième rang dans cette épreuve, son discours final a suffisamment plu aux juges, Louise Hénault-Étier et Alex Perron, pour lui permettre d'arracher la victoire et de remporter le prix qui y était associé, 10 000 $ en argent, une pergola avec panneaux solaires et la location d'une autocaravane électrique. Plus que le prix, c'est avant tout l'occasion de relever un défi personnel et de porter un message qui a incité la femme de 41 ans, mère de deux enfants et copropriétaire des jardins Diversi Bio, à se porter candidate pour cette compétition ludique animée par l'humoriste Corinne Côté. Une émission qui, croit-elle, dédramatise l'écologie et la rend accessible à tout le monde. Anxieuse écologique. Je suis une anxieuse écologique, confie Melanie McCulloch. J'ai deux enfants. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on va leur léguer? Mais j'essaie toujours d'amener ces propos-là d'une façon qui n'est pas négative. Le message passé à travers l'émission, c'est aussi que c'est une affaire d'équipe. On était toutes des personnes complètement différentes, mais quand les valeurs profondes sont les mêmes, les liens se créent. Même si les concurrents étaient évalués sur une base individuelle, la plupart des épreuves se sont déroulées en équipe, non sans quelques disputes. On a appris sur nous, sur comment on peut être dans des situations parfois difficiles, souligne Mélanie. Le tournage ayant eu lieu en été, plusieurs défis se sont déroulés sous un soleil de plomb, avec des températures dépassant les 30 degrés Celsius. L'épisode où les décarbonés doivent construire une serre en quelques heures a été particulièrement éprouvant, remarque Mélanie. Mais le défi le plus difficile pour elle a été le tout premier. Les participants devaient réparer une variété d'objets et les vendre dans la rue, un exercice qui ne lui a pas plu. À ce moment-là, je me suis dit, On va tous se ridiculiser tout le long de cette émission, finalement. Après avoir terminé au dernier rang de cette première épreuve, elle a tranquillement remonté la pente au fil des semaines pour être couronnée reine des décarbonés lors de l'ultime épisode de la saison offerte en rattrapage sur la plateforme numérique d'Uni TV. Finalement, c'est son leadership, davantage que ses habiletés manuelles, qui s'est avéré payant. La vainqueur se défend d'être une écolo parfaite. Aspirer à la perfection freine d'ailleurs l'action, selon elle. Avant sa participation, sa famille avait déjà adopté plusieurs habitudes éco-responsables. Mais l'émission lui a fait certains rappels, notamment sur la consommation d'eau. Dans le cinquième épisode, les décarbonés doivent accomplir une série de tâches avec seulement 50 litres d'eau, alors qu'on apprend que le Québécois moyen en consomme 4 fois plus quotidiennement. L'émission ne contribue-t-elle pas à marteler le message que le sort de la planète repose sur les individus? C'est toujours là que le bât blesse, reconnaît Mélanie. On sait très bien qu'il y aurait de plus gros changements s'ils venaient de plus haut. En même temps, est-ce qu'on va toujours attendre après ça? Peut-être que je vis la tête dans le sable, mais j'aime mieux vivre la tête dans le sable et avancer à ma façon, puis mettre des choses en place à ma façon, que d'être paralysé par la peur. Sa source d'inspiration. Elle nomme d'emblée Jane Goodall, célèbre primatologue britannique disparue en octobre dernier, et l'une de ses célèbres déclarations « Il n'y a pas une seule journée où nous n'avons pas d'impact sur le monde qui nous entoure. Ce que nous faisons fait une différence. Et c'est à nous de choisir quel type de différence nous voulons créer. » Cela fait écho à une conviction que je porte au quotidien. Peu importe qui nous sommes, nous avons tous un impact sur le monde, chaque jour. La vraie question est donc, quel impact voulons-nous avoir? Affirme Mélanie McCulloch. C'était Reine d'une télé-réalité décarbonée. Un texte de Valérie Simard, paru le 16 janvier 2026 dans La Presse.
Personne proche aidante, au-delà des idées préconçues. Un texte commandité paru le 18 octobre 2025 dans La Presse. Elles sont environ 1,5 million d'un bout à l'autre du Québec, mais plusieurs ignorent qu'elles en font partie. Les personnes proches aidantes. Celles-ci jouent pourtant un rôle essentiel au sein de la société québécoise au grand complet. Qui sont donc ces personnes, de tous les âges et de tous les horizons, qui endossent ces responsabilités en plus des autres chapeaux qu'elles portent dans leur vie? Mythe. Les personnes proches aidantes sont des membres de la famille. L'idée selon laquelle une personne proche aidante et la personne aidée doivent être liées soit par des liens familiaux, soit par une union, est très répandue, pourtant. Les personnes proches aidantes ne sont pas toujours des membres de la famille. Il s'agit parfois d'un ami, d'un voisin, d'un collègue. La personne proche aidante apporte son soutien à une personne de son entourage qui vit avec une incapacité temporaire ou permanente. Cette dernière peut être de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre. La personne proche aidante et la personne aidée partagent un lien affectif, qu'il soit familial ou non. Les personnes proches aidantes peuvent aussi être des parents, des amis, de jeunes adultes, des conjoints, des étudiants, des travailleurs, des retraités. En plus de ce rôle qui les définit, ces citoyens et citoyennes assument des responsabilités additionnelles, parfois sans même en prendre pleinement conscience. La contribution qu'accomplissent les personnes proches aidantes est pourtant essentielle à notre société. Bon à savoir. Les personnes aidées ne sont pas seulement des aînés. L'incapacité peut en effet arriver à différents stades de la vie et pour plusieurs raisons. Handicap, maladie grave, dépression, accident, cancer, etc. On estime tout de même que le vieillissement de la population entraînera une croissance des situations de proche aidance dans le futur. Mythe. On n'est pas la personne proche aidante de son enfant puisque c'est le rôle attendu d'un parent. De nombreuses personnes proches aidantes ont du mal à se reconnaître comme telles. Par exemple, les parents qui accompagnent leur enfant vivant avec une incapacité trouvent généralement naturel de jouer ce rôle. Pourtant, qu'ils offrent un soutien occasionnel ou continu et que leur enfant vive avec un handicap, un trouble de santé mentale ou une maladie, ces parents sont bel et bien en situation de proche aidance. Mythe. Il y a peu de ressources et de services d'aide pour les personnes proches aidantes. Dans toutes les régions du Québec, des organismes communautaires sont présents pour soutenir les personnes proches aidantes dans leur parcours. Et parce que chaque situation, chaque histoire est différente, certains de ces services s'adressent à des clientèles spécifiques. Ils répondent ainsi aux besoins particuliers des personnes proches aidantes. Par exemple, certaines ressources sont spécialement adaptées aux personnes proches aidantes de personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, des dépendances, un trouble du spectre de l'autisme, la maladie d'Alzheimer, des douleurs chroniques, un trouble de santé mentale, etc. Mythe. Les personnes proches aidantes sont invincibles. La majorité des personnes proches aidantes trouvent ce rôle gratifiant. Néanmoins, celui-ci peut avoir des répercussions considérables sur leur vie ainsi que sur leur santé physique et mentale. Certaines de ces personnes ont besoin d'aide pour concilier cette réalité avec leur vie professionnelle ou leurs études, tandis que d'autres souhaiteraient avoir du soutien pour assumer leurs responsabilités familiales ou alléger le fardeau financier de la proche aidance. C'est pourquoi les ressources à leur portée sont de nature différente. Services de répit, aide à domicile, groupes d'entraide, soutien psychosocial, conseils juridiques, formation, transport, etc. Quelques-unes des ressources offertes. Service info-aidant de l'appui. Info-aidant est un service téléphonique professionnel, confidentiel et gratuit, disponible tous les jours de 8h à 20h. Ce service s'adresse entre autres aux personnes aidantes et à leur entourage par téléphone au 1-855-852-7784, par clavardage ou par courriel. Répertoire des ressources de l'appui. Le répertoire des ressources vous aide à trouver du soutien dans votre région par l'entremise d'organismes communautaires de proximité en faisant des recherches soit par code postal, soit par type de service. Proche aidance Québec. Ce regroupement réunit des organismes communautaires qui soutiennent les personnes proches aidantes. Ceux-ci ont pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnes proches aidantes en soulageant l'appauvrissement et l'épuisement qu'elles vivent. Confédération des associations de proches, CAP, en santé mentale du Québec. CAP Santé mentale aide à accompagner un ou une proche vivant des troubles de santé mentale, que ce soit dans un contexte d'urgence ou pour répondre à un besoin d'information ou de soutien. C'était personnes proches aidantes au-delà des idées préconçues, un texte commandité paru le 18 octobre 2025 dans La Presse.
L'avertissement sur les aliments transformés changera-t-il nos habitudes? Un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 31 décembre 2025 dans Le Devoir. De nouvelles étiquettes nutritionnelles ont discrètement fait leur apparition sur les tablettes d'épicerie au cours de la dernière année. Depuis le 1er janvier 2026, elles sont obligatoires sur les aliments transformés jugés trop salés, trop sucrés ou trop gras. Saluées par des experts comme un pas en avant pour la santé publique, ce nouvel outil soulève toutefois des doutes quant à sa capacité réelle à modifier les habitudes alimentaires. Certains auront peut-être déjà remarqué le symbole apposé sur leur bouteille de jus, leur brique de soupe ou leur paquet de céréales. Placée à l'avant des emballages, la nouvelle étiquette prend la forme d'une petite loupe noire, accompagnée d'un avertissement signalant une teneur élevée en gras saturés, en sucre ou en sodium. Mis en place par Santé Canada, cet outil vise à améliorer la transparence de l'étiquetage et à permettre aux consommateurs d'identifier rapidement les aliments moins bons pour leur santé afin de faire de meilleurs choix à l'épicerie. C'est un pas dans la bonne direction. Les consommateurs ont peu ou pas de temps pour lire les tableaux de valeurs nutritives et certains ne les comprennent pas. Le nouveau symbole aide à faire des choix rapides et éclairés, estime Sylvain Charlebois, professeur titulaire en distribution et politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie. Des exceptions. Santé Canada a toutefois prévu plusieurs exceptions, notamment pour le lait, les œufs, les noix, les huiles végétales, les viandes et poissons à un ingrédient unique. Les fromages et yogourts contenant suffisamment de calcium échappent également à la nouvelle obligation. Ces aliments sont considérés comme présentant un avantage reconnu pour la protection de la santé lorsqu'ils sont consommés avec modération. Les produits pour lesquels le symbole serait jugé redondant, comme le sucre, le sel, le miel, le sirop d'érable ou le beurre, ne porteront pas non plus l'étiquette. Annoncée en 2018, la mesure devait initialement entrer en vigueur en 2022, mais son application a été reportée à 2026 pour laisser le temps à l'industrie de s'adapter. Selon une étude de l'Université Laval publiée dans Public Health Nutrition, près de 60% des aliments transformés les plus vendus au Québec devront afficher le symbole. Efficace, la petite loupe? Si les experts saluent l'intention de Santé Canada, ils émettent des doutes quant à l'incidence réelle de l'étiquette sur les comportements alimentaires. Ils s'interrogent notamment sur son aspect visuel, jugeant l'étiquette petite, neutre et discrète. Le symbole en noir et blanc n'est pas évident à reconnaître. Beaucoup de gens ne le voient pas d'emblée. D'autres ne savent juste pas ce qu'il veut dire, souligne M. Charlebois. On est loin du Nutri-Score européen qui attrape l'œil avec son code de couleur allant du vert au rouge et sa classification de A à E pour évaluer un produit en fonction de sa valeur nutritionnelle, renchérit la nutritionniste et conférencière Stéphanie Côté. Ça va être intéressant de voir des études, des sondages, des enquêtes sur le sujet pour évaluer à quel point le consommateur voit et comprend le nouveau symbole. Le Devoir s'est prêté au jeu lors d'une visite à l'épicerie cette semaine. La majorité des clients interrogés n'avaient jamais remarqué l'étiquette auparavant. Si certains se sont dit ouverts à en tenir compte à l'avenir, d'autres soutiennent que le prix et leur goût pèsent davantage dans leur choix. C'est un luxe de pouvoir se fier aux critères de la valeur nutritive pour choisir un aliment, souligne Stéphanie Côté. Pour beaucoup de gens, le prix est le critère numéro un. Et ça se comprend quand on voit l'augmentation du coût des aliments. Le symbole pourrait néanmoins aider à comparer des produits similaires dans une même gamme de prix. Un outil insuffisant. La nutritionniste estime par ailleurs que l'étiquette manque de nuances. Ça lève un drapeau rouge, mais il faudrait idéalement tenir compte de l'aliment dans son ensemble. Une barre aux noix et aux fruits séchés peut être plus nutritive qu'une alternative moins sucrée, illustre-t-elle. Elle cite encore une fois le Nutri-Score européen en exemple. Contrairement au logo canadien, l'indicateur se base sur un calcul qui prend en compte non seulement les nutriments à limiter, gras saturés, sucre, sel, mais aussi la teneur en nutriments à favoriser, fibres, protéines, etc. Ainsi, en plus de pointer du doigt les produits moins bons pour la santé, l'étiquette européenne oriente les consommateurs vers des choix plus sains. Faire bouger l'industrie. De son côté, Santé Canada dit avoir examiné différents systèmes d'étiquetage et avoir choisi celui-ci à la lumière de données scientifiques, de l'avis des consommateurs et des leçons tirées d'autres pays. Une étude récente menée au Mexique a révélé que le système élevé 1 influençait le comportement d'achat des adultes, 38% des participants déclarant avoir modifié leurs habitudes d'achat principalement en choisissant des produits portant peu ou pas de symboles ou en cessant d'acheter des produits les affichant, explique un porte-parole par courriel. Santé Canada précise par ailleurs que le tableau de valeurs nutritives sur l'emballage apporte son lot d'informations complémentaires, tout comme le Guide alimentaire canadien. L'ajout de cette nouvelle étiquette nutritionnelle a au moins comme avantage de forcer les entreprises à faire mieux en rendant leurs produits moins nocifs pour la santé, croit Sylvain Charlebois. Qui voudrait voir cette étiquette sur son produit et risquer une perte de vente? On le voit déjà, certaines entreprises tentent de nouvelles recettes pour diminuer le sel, le sucre et les gras trans, note-t-il. Plusieurs produits transformés arborent désormais une nouvelle étiquette nutritionnelle qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2026, indiquant un excès de sucre, sel ou gras. Madame Côté craint toutefois des dérives. L'industrie pourrait, par exemple, remplacer le sucre par un substitut comme l'aspartame ou le sucralose afin d'échapper à la fameuse étiquette. Ces substituts ne sont pas meilleurs. Ils n'améliorent pas la valeur nutritive d'un aliment et ne conditionnent pas les consommateurs à manger moins sucré, critique-t-elle. Ce serait mettre un plaster sur le problème. Les deux experts espèrent que Santé Canada continuera d'éduquer et de sensibiliser les consommateurs sur les saines habitudes alimentaires ainsi que sur la manière d'utiliser efficacement ce nouveau symbole à l'épicerie. C'était l'avertissement sur les aliments transformés, changera-t-il nos habitudes? Un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 31 décembre 2025 dans Le Devoir.
On ne peut plus attendre, dit la sénatrice Danielle Henkel. Un texte de Isabelle Dubé, paru le 3 février 2026 dans la presse. La sénatrice indépendante et femme d'affaires Danielle Henkel présentera un projet de loi sur la santé des femmes jeudi au Sénat. Elle propose un cadre national pour que toutes les femmes à travers le Canada aient accès aux mêmes soins, car il y a des disparités entre les provinces. Le projet de loi S-243 vise à établir une loi cadre nationale sur la santé des femmes. Ce projet de loi est urgent, important, on ne peut plus attendre, affirme avec conviction la sénatrice Danielle Henkel, en poste depuis un an, qui s'est fait connaître du grand public à la populaire émission Dans l'œil du dragon. Le Canada n'a pas de direction commune, pas de structure pour coordonner et partager l'information sur la santé physique et mentale des femmes entre les provinces et territoires, explique-t-elle en entrevue avec la presse. Le projet de loi veut responsabiliser le gouvernement fédéral pour qu'il fasse un suivi et qu'il exige des redditions de comptes. Avant de rédiger sa loi, la sénatrice Danielle Henkel a fait un rigoureux travail de terrain d'une dizaine de mois à travers le Canada pour comprendre tous les enjeux. Soutenue par l'Association canadienne pour l'équité en santé des femmes, elle a rencontré des chercheurs, des cliniciens, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des intervenants de première ligne et des femmes ordinaires. J'ai découvert toutes les inégalités en santé de la femme, que ce soit des retards de diagnostic, des lacunes en recherche, les écarts d'accès aux soins qui se répètent partout au Canada. Quand tu penses qu'il y a 7% seulement de la recherche partout au Canada qui est attribuée à la santé des femmes, c'est inquiétant, ce n'est pas normal, indique la sénatrice en faisant référence à l'étude du Partnership for Women's Health Research. La sénatrice cite aussi l'étude du Journal canadien de chirurgie qui révèle que dans 8 provinces, les médecins sont payés en moyenne 26,7% de moins lorsqu'ils opèrent les organes reproducteurs féminins. Les maux spécifiques aux femmes mal diagnostiquées, dont les douleurs au ventre et les symptômes reliés à la ménopause, entraînent une baisse de productivité alors que le pays a besoin de tout le monde, relate-t-elle. Économiquement, on en paye le prix. Humainement, on en paye le prix. On paye le prix à tous les niveaux, et le prix est très élevé. C'est 37 milliards que l'on perd, qu'on peut gagner chaque année. On cherche de l'argent, il est là. Les compétences d'affaires appliquées au Sénat. Alors que les sénateurs ont l'habitude de travailler sur leurs lois de façon individuelle, la sénatrice Henkel a choisi d'appliquer l'un des principes qui mènent au succès en affaires, soit la collaboration avec les meilleurs talents. Pour éviter les obstacles, les barrières que je ne connais peut-être pas, je suis allée à l'avant de mes collègues qui sont là depuis plus longtemps que moi et qui ont la connaissance du terrain afin de m'abreuver de leurs conseils. Raconte avec enthousiasme la sénatrice qui ne passe pas inaperçue au Sénat avec son style dynamique et passionné. La fondatrice des entreprises Danielle Henkel est aussi conseillère stratégique, mentor, coach, conférencière et auteur. Elle met tout en œuvre pour que son projet de loi soit adopté. Le projet de loi S243 veut renforcer l'investissement dans la recherche et l'innovation en santé, favoriser la collaboration entre les réseaux publics et le secteur privé, rehausser la formation des professionnels de la santé, prioriser les mesures de prévention et mettre en œuvre des solutions ciblées pour améliorer l'accès aux soins de santé des femmes. À la suite de la lecture du projet de loi ce mardi, un forum pan-canadien sur la santé des femmes est prévu les 25 et 26 février avec tous les acteurs du milieu de la santé, des entreprises et des élus. Le comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie analysera le projet de loi qui sera ensuite soumis au vote. La députée de Hamilton Mountain, Lisa Hepfner, a annoncé qu'elle appuiera le projet de loi. C'était « On ne peut plus attendre », dit la sénatrice Danielle Henkel. Un texte de Isabelle Dubé, paru le 3 février 2026 dans la presse.